Réaction également de Nicolas Mezov qui est dans ce studio ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas d'accord. D'abord, est-ce que vous êtes déçu? Parce que vous devez être fatigué au terme de toutes ces heures de discussion. Ça a été long, ça a été un peu compliqué, non?
Ça a été très long, ça a été effectivement assez compliqué. On a peu dormi, mais bon, c'est pas le plus important à notre petite santé. Je suis déçu, c'est une drôle de question, parce que nous, on cherchait un accord qui permette aux Calédoniens de dire voilà les nouvelles règles du jeu et de se projeter dans l'avenir avec un statut qui soit définitif. Mais en même temps, je peux pas être déçu, parce qu'on a gardé la Nouvelle-Calédonie française. Et le risque était grand. Manuel Valls est venu avec un projet d'indépendance-association dont on n'avait jamais parlé jusqu'ici.
Alors lui-même ne prononce jamais ce mot d'indépendance-association. Même quand on lui pose la question, ce n'est pas un terme qu'il assume, manifestement.
Je trouve que ce n'est pas honnête de sa part, dans la mesure où quand on dit qu'on veut transférer les compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie, quand on dit qu'on a une double nationalité, et quand on dit qu'on a une reconnaissance internationale, donc un siège à l'ONU, pardon, mais ça, c'est l'indépendance-association. Le pire, c'est que jamais, mais jamais, dans les discussions qu'on a eues auparavant, à la fois à Paris, à la fois ici à Nouméa lors de ces deux premières visites, ni pendant les visioconférences qu'on a eues pendant quelques mois, jamais on a abordé le sujet de la double nationalité, jamais on a abordé le sujet du transfert des compétences régaliennes, encore moins le siège à l'ONU. Et là, d'un coup, Manuel Valls arrive en Nouvelle-Calédonie lors de sa dernière visite, pouf, indépendance, association. Comment voulez-vous qu'on accepte ça? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce n'est pas le choix des Calédoniens. Virginie Rufnak l'a très bien rappelé. Les Calédoniens ont choisi que la Calédonie devait rester française. Donc on ne peut pas bâtir un pays sur la négation d'un choix démocratique. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne pouvait pas trouver d'accord avec ça. Comment voulez-vous que les indépendantistes fassent des concessions ou des pas vers les non-indépendantistes, puisqu'ils ont en premier soutien le ministre d'État de la République? Il a tué... clairement, la possibilité de réussite du conclave de débat.
Alors, justement, comment ça s'est passé? Parce que la dernière fois, il est venu, il avait un document qu'il avait posé sur la table, sur lequel vous avez travaillé les uns et les autres. Là, cette fois-ci, il n'y a pas eu de document qui a été rendu public. Vous, il vous a donné quand même un document, ou ça s'est fait comment? Ou vous avez découvert au fur et à mesure quel était le projet qu'il
Alors,
avait?
Alors, au début, il a été quand même vachement prudent, parce qu'il ne voulait pas donner de document. Et donc, il a lu... le document en rappelant ce qu'on vient de citer, régalienne, etc. Et donc nous, on lui a tout de suite dit, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'il y a eu les premiers contacts avec Paris, notamment le président de la République, notamment Bruno Retailleau, notamment Gérard Larcher, notamment Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin. Et malgré ça, il est revenu avec ça au conclave de Deva. Et je ne sais pas quel était le pari du ministre. Est-ce que c'était qu'on quitte la table et qu'il fasse finalement le deal qu'avec les indépendantistes et l'éveil océanien et peut-être Calédonie ensemble? Je me demande comment il a pu penser que ça pouvait fonctionner.
Est-ce que vous, vos délégations, vous avez pensé un moment à claquer la porte et arrêter les discussions, ou est-ce que vous... Parce que vous êtes resté jusqu'au bout, malgré tout.
Jamais, jamais, parce que je pense que c'était aussi peut-être une volonté de nous voir quitter la table. Et nous, on a toujours dit aux Calédoniens que jamais on quitterait la table, parce que tant qu'on est à table, on peut se battre. Voilà. Et les absents ont toujours tort.
De leur côté, les délégations indépendantistes, notamment, ont réagi comment? Ils ont été surpris, à l'inverse, que le ministre fasse un projet dans lequel ils pouvaient se retrouver?
Je les ai trouvés surpris, mais agréablement surpris, pour le coup. Ils ont tout de suite dit « oui, ça nous va ». Donc, quand vous avez le FLNKS et l'UNI qui dit « oui, ça nous va », c'est qu'il faut s'inquiéter, je pense.
Alors, votre projet, à l'inverse, le ministre en parle. On a l'impression qu'il le caricature un petit peu, peut-être. Il parle de partition, en tout cas, de remise en cause de l'unité de la Nouvelle-Calédonie.
Je suis particulièrement choqué par ça, et je trouve ça pas honnête du tout. Parce que une partition, ça voudrait dire que le Nord est indépendant, les îles sont indépendantes, et nous, on est français. C'est la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais... nous, on n'a jamais présenté un projet où les gens du Nord ne seraient pas les mêmes citoyens de la Nouvelle-Calédonie que les gens du Sud, que les gens du Nord n'aient plus la nationalité française et que les gens du Sud l'aient. Enfin, comment moi je pourrais être pour la partition? Je suis de Poya, ma commune est coupée en deux. Je dirais quoi à ma famille du Nord? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment moi, dans mon ADN politique, je pourrais être pour ça? Par contre, on a défendu, et c'est vrai, on l'a toujours dit, le renforcement des provinces, la place importante des provinces dans l'organisation de la Nouvelle-Calédonie. Mais dis donc, mais est-ce que l'État, quand les indépendantistes ont demandé les régions, quand les indépendantistes ont demandé les provinces en 88, est-ce que l'État a dit que c'était la partition ? Quand c'est une demande des indépendantistes, c'est toujours génial. Par contre, quand c'est une demande qui vient des non-indépendantistes, quand bien même ça serait la même, ah là, du coup, c'est l'apartheid et la partition. Mais il y a un moment donné, il faut que les images d'Épinal des responsables politiques socialistes s'arrêtent sur la Nouvelle-Calédonie.
D'autant plus qu'on avait l'impression que là aussi, lors de son dernier séjour, il semblait plutôt ouvert à cette proposition. En tout cas, il était prêt à l'étudier. Là, ce n'était plus le cas du tout.
Mais on en saura plus dans les prochains jours, parce que... Il s'est passé quelque chose entre les dernières visites de Manuel Valls et celle-là. Parce que vraiment, rien de tout ça n'avait été mis sur la table. Est-ce que c'est une stratégie qu'il a depuis le début, compte tenu de ses premières déclarations qui avaient déjà un petit peu irrité les non-indépendantistes que nous sommes ? Est-ce qu'il avait toujours prévu de faire ça ? Est-ce qu'il y a eu une discussion avec M. Christin Hart ? Je ne sais pas. On en saura plus quand on ira à Paris. En tout cas, on peut se féliciter aujourd'hui. Je trouve que Mme Baquès a raison de notre force collective. Voilà, je trouve que on s'est clairement soudés, les responsables non-indépendantistes, Gilles Brial, Sonia Baquès, M. Frogier, Mme Ruffnac, M. Ponga, M. Vittori. On a été très solides pour défendre la Calédonie française et le choix des Calédoniens. Et je pense que c'est une solidité, permettez-moi de le dire, Elisabeth Noir, qui doit se retrouver dans les futures élections provinciales, parce que c'est ça le sujet maintenant, c'est des élections provinciales qui vont arriver très vite, le temps de convoquer les listes électorales, donc dans 3-4 mois. Et l'union des non-indépendantistes doit être la plus large possible. Pourquoi ? Parce que quand bien même on a gagné cette bataille contre le projet d'indépendance association de Manuel Valls, c'est une idée qui a toujours parcouru les couloirs socialistes de Paris depuis Edgar Pisani. Et ce n'est pas impossible qu'après les élections provinciales, cette idée revienne. Et donc, il va falloir une union la plus large possible de gens déterminés à ne pas reculer là-dessus.
Ces élections provinciales, justement, comment est-ce qu'elles vont pouvoir se dérouler avec un corps électoral gelé ? A priori, vous avez un moyen de vous y opposer ou on y va inéluctablement ?
Je trouve que vous avez bien fait de poser la question tout à l'heure au ministre lors de sa conférence de presse, Mme Noir, parce que c'est encore la démonstration, en fait, et moi, c'est ce qui m'inquiète de certains responsables d'État, de la mentalité de céder face à la violence. Le projet d'indépendance association, c'est parce qu'il y a eu le 13 mai. Le gel du corps électoral, alors qu'on a voté 3 fois non, c'est parce qu'il y a eu le 13 mai. Mais en fait, c'est quoi ces responsables français qui font gagner la violence et qui font perdre la démocratie et l'état de droit ? Je ne peux pas comprendre ça. Et donc, nous, notre volonté avec l'ensemble des non-indépendantistes, et je serai très honoré d'être leur porte-parole au Parlement sur le sujet, c'est de combattre cette idée-là. C'est de dire au Parlement, vous ne pouvez pas accepter une organisation des élections provinciales avec un corps électoral gelé après 30 ans parce qu'il y a eu des violences. Au contraire, faisant gagner la démocratie. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais... quand même, enfin, comment on peut reculer sur ça ? Donc on va se battre politiquement déjà. Il y a une possibilité, peut-être, on étudie la question de déposer une loi organique. Encore faut-il qu'elle ait le temps d'aboutir, mais le choix politique est d'y aller. Et il y aura certainement aussi un combat juridique avec des recours. Rappelons que la Cour européenne des droits de l'homme avait dit que même le corps électoral glissant devait être transitoire. Donc on imagine un corps électoral gelé depuis 25 ans.
Vous y faisiez allusion tout à l'heure, vous avez le sentiment d'avoir des soutiens en métropole. Il y a aujourd'hui dans la classe politique et même peut-être au plus haut niveau de l'État, je ne sais pas si vous pouvez en parler ouvertement, mais le chef de l'État manifestement n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que le ministre des Outre-mer.
C'est difficile pour moi d'évidemment parler à leur place. Ils s'expriment quand ils...
Mais vous avez eu en ligne le président de la République, on peut le dire, c'est pas un secret.
On l'a eu au téléphone, notamment Sonia Baquès et moi, qui sommes les deux plus proches du président de la République. Je sais que Mme Ruffnac a beaucoup œuvré aussi auprès des Républicains à Paris, notamment auprès de M. Retailleau et M. Larcher. Voilà, chacun en représentant finalement une force politique nationale ici. On a nos relais là-bas. Je ne vais pas en dire plus, mais effectivement, quand on a appris que le projet de Manuel Valls était l'indépendance association, on s'est quand même permis de poser la question à nos représentants nationaux s'ils avaient validé ça. Bon, apparemment, ce n'était pas forcément le cas.
Un point sur les points de convergence dont parle Manuel Valls. Parce que finalement, vous avez parlé beaucoup, enfin, vous avez travaillé, discuté pendant de très nombreuses heures. On ne sait pas trop de quoi vous avez parlé. Ces points de convergence dont parle le ministre, c'est vraiment des éléments qui sont marqués maintenant, qui sont actés, sur lesquels il y a un accord entre les différentes délégations, ou c'est sans importance par rapport au statut lui-même.
Là, aujourd'hui, il n'y a d'accord sur rien, mais il y a même des points de convergence. On n'en a même pas parlé.
Le ministre a listé, mais dont vous n'avez pas parlé.
Oui. Alors, il y en a plusieurs qu'il a cités. De mémoire, des élections séparées entre, par exemple, les provinciales et le Congrès. On n'a jamais abordé le sujet, on n'a jamais dit qu'on était d'accord. Je crois qu'il y a une question de représentant du droit. On n'a jamais abordé ce sujet-là.
Qui devait être au Congrès, oui.
Ouais, je ne comprends pas les convergences qu'a listé M. Valls. C'était une conférence de presse, d'ailleurs, du ministre. Je trouve très politique. Très politique. Je trouve qu'il est un peu sorti de son rôle de ministre, pour rien vous cacher, puisqu'il n'a pas dit la vérité, il n'a pas prononcé le mot indépendance association sur son projet, alors que c'est le cas. Il a accusé le nôtre d'être un projet de partition, alors que ce n'est pas le cas. Et il a mis en évidence des convergences qui n'existent pas. Je trouve qu'on a eu un Manuel Valls qui s'est peut-être déjà ingéré dans la campagne des provinciales, pour rien vous cacher.
Pour conclure, Nicolas Médor, vous nous disiez au début que vous n'étiez pas déçu puisque vous avez le sentiment d'avoir fait barrage à l'indépendance, mais vous savez que les Calédoniens étaient un certain nombre à attendre cet accord impatiemment. Quelles sont les conséquences d'une absence d'accord? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que ce sera le chaos, la guerre civile, comme l'a laissé entendre le ministre des Outre-mer?
Écoutez, moi, ce que je sais et ce que je peux dire aujourd'hui, sans me projeter sur les éventuelles choses des rapports de force politique entre les uns et les autres, ce que je sais, c'est qu'on est dans le statut de l'accord Nouméa qu'on connaît depuis au moins 30 ans. Voilà. On est dans l'accord Nouméa. Ces élections provinciales qui vont arriver, elles devaient avoir lieu déjà il y a plus d'un an. On est dans le contexte qu'on connaît déjà depuis 1998, en fait. Donc, on est avec notre système provincial, notre gouvernement, notre congrès. On est français. Il n'y a pas de droit à l'autodétermination. On est dans ce qu'on connaît déjà. Donc, si les partis politiques sont responsables et n'appellent pas à la mobilisation comme on a connu sur le 13 mai, eh bien, en fait, ça va se passer dans un cadre démocratique comme ça s'est toujours passé jusqu'ici en Nouvelle-Calédonie, mis à part le 13 mai, évidemment. Donc, nous, même si on combat l'idée d'indépendance association, on n'est pas là pour appeler à quelque violence que ce soit. Et on a dit aux indépendantistes que ça ne devait pas être le cas de leur côté non plus. Donc, si chacun respecte, en tant que responsable politique, l'état de droit, la démocratie et la paix, tout simplement, on est dans un statut qu'on connaît déjà. Il est celui d'une Nouvelle-Calédonie française qui va à des élections comme on y a toujours été. Donc, un accord, ça permet de... En fait, c'est quoi un accord politique dont on parle tout le temps? C'est un changement de statut de la Nouvelle-Calédonie. C'est plus de France, moins de France, un changement d'institution. Mais si on n'a pas d'accord, il n'y a pas de changement de statut. On reste dans notre statut actuel.
Il va y avoir d'autres réunions, c'est prévu, avec le ministre, d'autres discussions, ou pour l'instant, on marque une pause dans la recherche d'un avenir institutionnel?
Je pense que maintenant, sur l'institutionnel, le débat va se concentrer maintenant en Nouvelle-Calédonie avec les élections provinciales, qui sont désormais dans pas longtemps, puisque c'est éventuellement dans 4-5 mois. Je pense que s'il y a des échanges avec le ministre, et particulièrement nous, en tant que parlementaires, ça sera sur les questions du quotidien, c'est-à-dire le soutien à l'économie, le soutien au nickel, mais ça sera plus d'ordre institutionnel, parce que je pense que tout le monde attendra... les nouvelles élections.
Merci Nicolas Médor pour cet éclairage ce soir. Un dernier mot, Léana, pour vous dire que les indépendantistes doivent s'exprimer aussi après ce conclave de Deval. L'Union calédonienne se réunit demain pour faire le point et l'UNI a annoncé qu'elle rencontrait la presse en début de semaine pour donner son analyse de ces discussions et de l'absence d'un accord.